VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 18 décembre 2017, en direct de Washington, Idrissa Sidoulia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
En Afrique du Sud, opération de vote de l'ANC pour un successeur de Jacob Zuma à la tête du parti.
Au Gabon, plusieurs arrestations après l'attaque à l'arme blanche contre deux Danois.
En République démocratique du Congo, entretien hier entre le président Joseph Kabila et Jean-Pierre Lacroix, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU.
Remerciement du président russe Vladimir Poutine à son homologue Donald Trump, après que la CIA l'a aidé à déjouer des complots terroristes à Saint-Pétersbourg.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho.
Pour l'instant, le journal.
Le Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir depuis 1994 en Afrique du Sud, a repris dimanche soir ses opérations de vote pour désigner le successeur de leur contesté président, Jacob Zuma, un scrutin crucial pour l'avenir du parti et de la nation arc-en-ciel. Conclusion d'une campagne âpre et serrée, l'élection oppose l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa, soutenu par l'aile modérée de l'ANC, à la candidate soutenue par M. Zuma, son ex-épouse et ancienne patronne de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma.
Annoncé pour dimanche soir, puis retardé à lundi, le vote des milliers de délégués a finalement repris en soirée, a annoncé un communiqué du parti. Ce n'est qu'en fin de journée dimanche qu'ils sont parvenus, après de longues tractations, à se mettre d'accord sur une liste révisée de 4776 votants contre plus de 5200 initialement prévus. Le décompte actualisé des nominations par les différentes sections et branches provinciales du parti publié dimanche a donné une longueur d'avance à M. Ramaphosa sur sa rivale avec un total de 1469 contre 1094. Mais ce rapport de force peut être facilement inversé puisque les délégués ne sont liés par aucune consigne de vote.
Au Gabon, les forces de sécurité ont procédé hier à plusieurs dizaines d'arrestations à Libreville. C'est au lendemain d'une attaque à l'arme blanche qui a blessé deux Danois. Le Conseil islamique du Gabon a condamné cette attaque, Idriss Fall.
Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a condamné l'attaque hier au couteau perpétrée contre deux Danois. L'imam Hosseini Ossa a rappelé que l'islam enjoint à tout musulman de respecter la vie. Il a demandé au gouvernement de réprimer l'auteur ou les auteurs de cette agression. Hier, la police et la gendarmerie ont bouclé le village artisanal, un marché pour touristes à Libreville. Tous les commerçants, presque tous originaires d'Afrique de l'Ouest, ont été conduits à la police pour interrogatoire. La veille, un Nigérien criant « Allahu Akbar » a poignardé deux citoyens du Danemark. L'assaillant, âgé de 53 ans, vivait au Gabon depuis 19 ans. Selon les officiels gabonais, il dit avoir agi en représailles aux attaques des États-Unis contre les musulmans et à la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais jusqu'à hier, les autorités gabonaises n'avaient pas encore utilisé publiquement le qualificatif d'attaque terroriste ou djihadiste.
En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a reçu hier Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix. Le point avec Jean-Roger Bion.
Les deux hommes ont abordé ce qui s'est passé à Semuliki, a indiqué la MONUSCO, qui a perdu 14 casques bleus tanzaniens au début de ce mois dans l'attaque de leur base dans le Nord Kivu. Monsieur Lacroix s'était rendu vendredi à Goma pour saluer les soldats qui ont survécu. Il a déclaré que la lutte contre les groupes armés représente un défi collectif que nous devrions relever collectivement. Il doit retourner demain mardi à Beni. Auparavant, le responsable des opérations de maintien de la paix était à Dar es Salaam pour un hommage aux soldats tanzaniens tués dans la pire attaque jamais subie par les Nations Unies depuis leur déploiement à RDC en 1999. L'entretien avec M. Kabila a aussi porté sur les élections prévues le 23 décembre 2018 pour la succession du président congolais. M. Lacroix a déclaré que sécuriser les élections est la responsabilité première des Congolais, mais l'ONU est disponible pour travailler en appui. L'opposition congolaise estime que M. Kabila n'a aucune volonté d'organiser des élections.
En Tunisie, hier, l'anniversaire du déclenchement de la révolution a été marqué par des tensions à Sidi Bouzid, où un vendeur ambulant s'était immolé par le feu il y a 7 ans. Une quarantaine de membres du parti islamiste radical Hizb ut-Tahrir ont été brièvement interpellés pour avoir tenté de manifester sans autorisation.
Des chômeurs ont défilé pour déplorer le manque de travail et la vie chère. La veille, les forces de sécurité avaient dispersé avec des gaz lacrymogènes d'autres manifestants. À l'occasion d'un festival marquant l'anniversaire du début de la révolution, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat Selma Elloumi Rekik s'est rendue à Sidi Bouzid. Les organisateurs ont regretté l'absence du chef du gouvernement et celle du président de l'Assemblée.
L'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, a estimé dimanche que l'accord politique libyen signé le 17 décembre 2015 au Maroc a expiré et avec lui, le mandat du gouvernement d'union nationale appuyé par la communauté internationale. Le maréchal Haftar n'a jamais reconnu ce gouvernement, mais le Conseil de sécurité de l'ONU a prévenu jeudi que l'accord de Skhirat demeure le seul cadre viable pour mettre fin à la crise politique en Libye en attendant la tenue d'élections prévues en 2018.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le procureur spécial Robert Mueller défend la légalité de la collecte il y a plusieurs mois de dizaines de milliers d'emails appartenant à l'équipe de transition de Donald Trump, bien que les officiels de son administration ne l'aient appris que la semaine dernière. Les emails en question viennent des ordinateurs de 13 hauts responsables de cette équipe et couvrent la période entre l'élection de M. Trump à la présidentielle début novembre 2016 et son investiture le 20 janvier dernier. Ces messages incluent des discussions sur la sécurité nationale et les objectifs éventuels de M. Trump en politique étrangère, ainsi que des évaluations de candidats possibles à différents postes dans son administration. M. Mueller enquête sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016.
Selon Moscou, le président Vladimir Poutine a appelé son homologue américain Donald Trump pour le remercier après que la CIA a aidé la Russie à déjouer une série d'attentats à la bombe que projetait le groupe État islamique à Saint-Pétersbourg. La Maison-Blanche a confirmé cet appel grâce à ces informations partagées par les services de renseignement américains, ajoutons à Washington, où aucune vie russe n'a été perdue et les suspects ont été appréhendés et incarcérés.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit examiner aujourd'hui un projet de résolution visant à rejeter la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Cette décision suscite encore des vagues dans le monde arabo-musulman. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Le texte introduit par l'Égypte affirme que toute décision ou action visant à altérer le caractère, le statut ou la composition démographique de Jérusalem n'a pas de force légale, est nulle et non avenue et doit être révoquée. Ce projet de résolution doit être mis au vote aujourd'hui, mais les États-Unis ont le droit de veto. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan dit espérer que son pays ouvrira bientôt une ambassade à Jérusalem-Est, capitale d'un État palestinien. En tant que président en exercice de l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, il a appelé les pays musulmans à reconnaître Jérusalem-Est comme la capitale palestinienne. La décision américaine a provoqué des manifestations de colère en Cisjordanie occupée et dans d'autres pays du Proche-Orient. En Indonésie, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier à Jakarta pour dénoncer cette décision. L'Indonésie, pays musulman le plus peuplé au monde, est un fervent soutien de la cause palestinienne.
Signalons aussi que l'aviation israélienne a procédé aujourd'hui à des frappes contre des positions du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, quelques heures après le tir de 2 roquettes dimanche depuis l'enclave palestinienne, tombée au sud d'Israël, a annoncé l'armée israélienne. Le ministère de la Santé à Gaza n'a pas fait état de victimes. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco.
Le Gabon a rejoint le processus de Kimberley, le régulateur international en matière d'exportation de diamants. Ce processus, entré en vigueur en 2003, est un système de certification permettant d'éliminer du marché les diamants qui servent à alimenter les guerres et les rébellions. La décision du Gabon s'explique par sa volonté de faire du secteur des mines un axe important de la relance économique du pays qui a longtemps dépendu des ressources pétrolières. Au Burundi, le gouvernement se lance dans le crowdfunding pour financer les élections de 2020. Depuis la crise politique liée au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, la plupart des bailleurs de fonds étrangers ont suspendu leur aide. L'usage du crowdfunding étant très inhabituel pour un État, le ministre de l'Intérieur Pascal Barandagié a précisé que cette contribution est volontaire et ne devrait pas être considérée comme une taxe. Les fonctionnaires, les ménages et les étudiants burundais sont invités à participer au financement des prochaines élections. En Afrique du Sud, 22 millions de dollars destinés aux funérailles de Nelson Mandela ont été détournés selon l'organisme national de lutte contre la corruption. Après avoir vérifié les documents comptables, l'organisme a décelé plusieurs malversations, notamment des factures gonflées et des attributions frauduleuses de contrats.
À présent, les sports avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Handball pour commencer, avec la Coupe du Monde féminine et la France monte sur le toit du monde.
Oui, au thème d'une finale haletante face aux Norvégiennes, les Françaises ont remporté le titre mondial à Hambourg hier dimanche, score du match 23-21. Les filles d'Olivier Kumbolz ont livré une prestation énorme face aux tenants du titre pour décrocher le deuxième sac mondial de leur histoire. Après la victoire de son équipe masculine en janvier, la France obtient une seconde médaille d'or la même année grâce à son équipe féminine.
Direction le Bénin, le badminton a un nouveau président.
Il s'agit de Oubin Assogba. Il a été réélu pour les quatre prochaines années à l'issue d'une assemblée générale. Le président sortant a réuni 6 voix contre 3 pour son challenger Abdoulaye Salim. Le président élu place déjà son second mandat sous le signe de la réunification de la famille du badminton béninois en faisant allusion à la situation confuse de crise qui a secoué cette fédération pendant une bonne année. On l'écoute.
Quand on voit d'où on est parti et actuellement avec ces résultats, on ne peut que louer Dieu et remercier tous ceux qui ont concouru donc à la réussite de cet événement. J'aimerais dire sincèrement merci au président du comité national olympique et sportif béninois qui a pris son bâton de pèlerin, qui nous a guidés, qui nous a conduits comme des brebis jusqu'à bon port, sans oublier le ministère qui a pris la résolution de la crise comme priorité. Et voilà, nous sommes sortis aujourd'hui grandis. Et je vais finir par exhorter tous les acteurs à divers niveaux, que ce soit entraîneur, responsable d'association, journaliste, tous ceux qui aiment ce sport, le badminton, de se rejoindre à nous, de se mettre ensemble avec nous, parce que nous faisons maintenant l'ouverture à eux tous pour que nous puissions définir les bonnes bases pour le développement durable et la prospérité de cette discipline que nous aimons tous.
Il faut préciser que ce nouveau bureau est composé de 11 membres.
On reste au Bénin pour dire que la succession d'Oumar Tchomogo est ouverte.
Le contrat du sélectionneur béninois s'est arrêté samedi dernier. C'est à travers une note que le ministre des Sports a informé la Fédération béninoise de football. Et déjà des rumeurs font bon train et mènent à des entraîneurs étrangers comme Patrice Neveu, Alain Giresse ou encore Michel Dessueux qui a déjà dirigé les écureuils dans le passé. À noter également qu'un retour d'Oumar Tchomogo n'est pas totalement exclu. En tout cas, peu importe l'entraîneur, l'objectif restera le même, qualifier le Bénin pour la CAN 2019.
CECAFA Cup 2017, le Kenya, sacré champion.
Les Harambee Stars sont venus difficilement à bout des Heroes de Zanzibar, surprise de cette compétition au tir au but 3-2. 2 buts partout après le temps réglementaire. C'est le gardien de but kényan, Patrick Matasi, qui a été le héros en stoppant 3 pénalties pour remettre le trophée à son équipe. A noter que l'Ouganda termine 3e suite à sa victoire de 1 devant le Burundi en match de classement.
Mondial des clubs 2017, le Real Madrid remporte le trophée.
Le Real Madrid a remporté la Coupe du Monde des clubs pour la 2e année d'affilée après sa victoire lors de la finale face à Grêmio 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Cristiano Ronaldo à la 53e minute dans le match de classement. Pachuca a battu Al Jazeera 4-1.
On passe au basket, on connaît les affiches des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions.
Deuxième de son groupe, l'Étoile Sportive de Rades, équipe hôte de la compétition, affrontera le JS Petro d'Algérie, tandis que l'Union sportive de Monastir, leader de son groupe, sera opposée à l'équipe ougandaise City Oilers. Les Marocains de l'AS Salé, premier de la poule A, joueront Ferroviário Beira du Mozambique. À suivre également la confrontation entre 2 clubs angolais, Libolo face à Interclub. Et puis la NBA pour finir avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit.
Sacramento et Toronto, 93-108. Orlando et Détroit, 110-114. Indiana et Brooklyn Nets, 109-97. Cleveland et Washington, 106-99.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sédoudia, maintenant notre dossier du jour. En République démocratique du Congo, et nous vous le disions la semaine dernière, polémique à Kinshasa autour de la succession d'Étienne Tshisekedi à la tête de l'UDPS. Le Premier ministre Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint du vivant de Tshisekedi, a organisé un congrès au terme duquel il a été désigné président du parti. Ce que conteste, bien entendu, la direction du parti tenue par le secrétaire général Jean-Marc Kabound. Cette affaire relance, à un an des élections, la problématique liée au dédoublement des partis politiques dans le pays. Reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
À ma double qualité de Premier ministre, chef du gouvernement de la RDC et de nouveau président de l'UDPS, je m'engage à œuvrer pour que des obsèques dignes de son rang soient organisées en l'honneur du regretté Tshisekedi wa Mulumba. La nouvelle direction politique de l'UDPS va se réunir dans les heures qui viennent pour se mettre rapidement au travail en vue de traduire en acte les résolutions du Congrès. Il faut entamer et amplifier l'action de la réunification et de rassemblement en organisant des contacts directs avec tous ceux qui s'étaient éloignés du parti pour diverses raisons, pour leur demander de revenir à la maison.
Ces mots prononcés par Bruno Tshibala quelques minutes après son élection la semaine dernière comme président de l'UDPS ont relancé la polémique liée à la succession de feu Étienne Tshisekedi. L'actuel premier ministre de la RDC, qui jusqu'à la mort d'Étienne Tshisekedi était le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a convoqué un congrès qu'il a par la suite investi président du parti. Il a même promis dans son discours programme de réconcilier les filles et fils de l'UDPS et de récupérer le siège du parti à Libété. En réaction, Jean-Marc Kabound affirme que l'UDPS, la vraie, c'est celle qu'il dirige en tant que secrétaire général nommé par Étienne Tshisekedi, fonction qu'il exerce encore depuis la mort de ce dernier.
Tshibala aujourd'hui est plus kabiliste que les anciens kabilistes. Tout le monde sait que Tshibala a fait allégeance à Monsieur Kabila et il a décidé en âme et conscience de cheminer avec lui. On n'a pas du temps à perdre pour l'inviter dans un congrès de l'UDPS parce que nous n'inviterons personne de cette majorité. Mais nous avons un parti dénommé UDPS Tshisekedi. Il y a un parti politique dénommé UDPS qui bat ça, ces deux partis. Au ministère, nous sommes enregistrés sous ce nom, UDPS Tshisekedi, autant que c'est UDPS Tshibala. Mais ce n'est pas notre problème, nous n'avons pas peur de ça. Parce que nous savons que l'UDPS Tshisekedi restera égal à lui-même. Nous estimons que nous avons le peuple derrière nous, nous avons une forte base qui sait ce que veut dire l'UDPS.
Ce dossier relance le débat sur le dédoublement des partis politiques en République démocratique du Congo. De nombreux partis, en effet, ont la même dénomination. Dans la plupart des cas, l'un des camps appartient à la majorité, l'autre à l'opposition. Au micro de VOA Afrique, les quelques Kinois interrogés à ce sujet interpellent le ministère de l'Intérieur afin que solution soit trouvée avant les prochaines élections.
Moi, je crois que les dédoublements des partis politiques relèvent du ministère des tutelles. En fait, tous les partis sont enregistrés sous un nom, avec un domicile, un siège bien déterminé. Quand un parti doit se dédoubler, ça veut dire en même temps que ces ministères doivent agir dans le sens d'empêcher cela.
Moi, je pense que la seule grande solution qu'il fallait apporter, c'est lors des élections qui vont arriver bientôt, c'est qu'on doit aligner au moins 2 députés à l'Assemblée nationale pour être réellement reconnu comme un parti.
Cette tâche revient au ministère de l'Intérieur. Donc, c'est au ministre Emmanuel Ramazani Shadary de retirer les droits d'existence à des nouveaux partis politiques qui viennent d'être créés, portant le même dénomination que des anciens partis politiques.
Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Togo, la coalition de l'opposition qui a manifesté samedi dernier se targue d'avoir mobilisé 1 million de personnes dans les rues de Lomé. Depuis 4 mois, des militants et sympathisants de l'opposition sont dans la rue, ce qui n'est pas sans incidence sur les activités économiques. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Tous les jours qu'il y a marche, Si vous prenez l'avenue de la Libération, si vous allez un peu dans la zone de Décon, les magasins sont fermés. Avons-nous besoin de briser le commerce?
C'est un constat sur lequel revient le ministre de la Fonction publique Gilbert Barra, qui se demande s'il faut encore continuer les manifestations du moment où les avancées sont faites pour aller au dialogue. Selon le gouvernement togolais, une journée de manifestation constitue un manque à gagner de plus de 500 millions de francs CFA pour le Togo. Depuis 4 mois, les activités économiques tournent au ralenti, comme l'affirment ces commerçantes.
Nous avons un sérieux souci.
Tout ce que nous avons perdu, nous n'arrivons même pas à les quantifier. Qu'est-ce que nous pourrions faire pour que nos activités n'en soient pas aussi atteintes? Donc aujourd'hui, nous réfléchissons vraiment.
C'est vraiment, vraiment déplorable parce que nous craignons fort que nos clients nous quittent.
Samedi dernier, la coalition de l'opposition a tenu sa 20e manifestation de rue depuis le 19 août 2017. Kofi Agbenou, devant sa boutique, légèrement ouverte à Décon, dit comprendre le sens des manifestations.
Nous ne sommes pas là pour exposer ou bien pour vendre. Pour que la condition s'améliore, il faut que le pays même change d'abord. Et si on dit le pays change, il faut qu'on arrive à avoir une atmosphère plus tempérée. Et si les choses changent vraiment depuis le haut, nous aussi, notre quotidien aussi va changer.
Face aux accusations selon lesquelles la coalition de l'opposition veut asphyxier l'économie togolaise, Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, se défend.
Dire que est-ce que nous avons décidé d'asphyxier l'économie togolaise? Non. Nous mobilisons les populations pour obtenir l'instauration de la démocratie et l'état de droit au Togo. Nous ne pouvons pas décider d'asphyxier l'économie togolaise. Nous sommes des Togolais. Ça fait des années, des dizaines d'années que l'économie togolaise est par terre.
Pour Olivier Kouami, de l'entente des spécialistes togolais en technologie de l'information et de la communication esthétique, il ne faut pas oublier les jours de blackout de l'Internet qui ont sérieusement porté un coup dur à l'économie du pays.
Selon une étude de l'ONG Access Now, une rupture d'Internet coûte à peu près 300 000 à 400 000 dollars US de pertes par jour pour un pays comme le Togo. 5 jours sans Internet, c'est 5 jours de léthargie. C'est 5 jours d'inactivité commerciale. C'est énorme.
Beaucoup d'opérateurs économiques souhaitent qu'une pause soit observée durant la période des fêtes, mais la coalition ne s'est pas encore prononcée clairement sur une tenue des manifestations lors des 15 prochains jours. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Mali, les pays d'Afrique de l'Ouest ont décidé de mettre en place un programme d'accélération des investissements pour la sécurité alimentaire dans le nexus eau, énergie, alimentation et écosystème. C'est ce qui ressort de leur rencontre à Bamako. Le projet en question doit entrer dans sa phase exécution à partir de janvier 2018. La rencontre est une initiative du Partenariat régional de l'eau en Afrique de l'Ouest en collaboration avec le Partenariat national de l'eau au Mali. Les précisions de Kassim Traoré.
À l'insu des pêcheurs du fleuve Djoliba, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont tenu une rencontre sur les berges du dit fleuve. Ils ont débattu des questions d'eau, d'énergie, d'alimentation et d'écosystème. Professeur Amadou Amamaïga, président du partenariat de l'eau en Afrique de l'Ouest.
Nous avons développé une initiative qui consiste à développer un projet qui couvre toute l'Afrique de l'Ouest dans le cadre d'une démarche Nexus eau, énergie et sécurité alimentaire. En associant les deux ensemble, au lieu de les travailler de manière sectorielle, on peut faire des économies, on peut faire des optimiser les choses.
Le nouveau projet doit faciliter l'accélération des investissements. Il sera basé sur un concept appelé le Nexus. Koku Augustin du Bénin trouve que c'est une idée géniale.
Avec le Nexus, c'est une phase d'opération de l'Asie. Donc, et ça recommande à ce que les différents secteurs clés, à savoir l'eau, et l'alimentation, l'énergie et le climat, que ces différents secteurs-là se mettent ensemble.
Avec le concept Nexus, beaucoup de départements ministériels maliens peuvent mettre en synergie leurs activités. Cheikh Oumar Karamogo Traoré, du ministère malien de l'environnement et de l'assainissement.
Il n'y a qu'à prendre la question de l'eau. Il y a le ministère de l'énergie et de l'eau qui traite l'eau. Il y a le ministère de l'agriculture qui traite l'eau. Il y a le ministère de l'environnement qui parle de l'eau. Il y a le ministère du transport qui parle de l'eau. Donc on a presque 5 interlocuteurs qui parlent de 5 politiques par rapport à une seule ressource. Et ils ne se retrouvent pas. Cette approche d'Oxys va permettre de développer des synergies entre eux et pour qu'ils réfléchissent ensemble et comment on puisse vraiment aller à des avantages plus accrus en termes de résultats et d'impact.
Le Burkina Faso est déjà en train de faire l'expérimentation du projet Nexus de façon locale. Ce pays salue l'initiative du partenariat ouest-africain de l'eau de les réunir à Bamako. Théodore Perepanga, du ministère burkinabé de l'agriculture et de l'aménagement du territoire.
C'est notre raison d'être à un intérêt particulier par rapport à l'approche qui est connue. Et dans le cas du Burkina, il y a déjà un programme Nexus qui a été élaboré et qui vise vraiment l'implémentation de cette approche au bénéfice un peu de nos populations qui sont les premiers bénéficiaires.
Oumar Ibrahim Touré, commissaire à la sécurité alimentaire du Mali, lors de la clôture des travaux.
Notre niveau d'accompagnement, c'est que quand vous avez un programme, il s'agit de pouvoir faire en sorte de mobiliser les ressources qu'il faut. Il ne sert à rien d'avoir un programme si on ne peut pas vraiment mettre ce programme-là en œuvre. Je crois que c'est qu'il y a les prochaines étapes, c'est de nous mobiliser et de voir quels sont les partenaires qui pourraient être autour vraiment de ce programme-là et que déjà que ce programme-là puisse être mis en marche à partir déjà de janvier 2018.
Après cet atelier, les pays de l'Afrique de l'Ouest doivent tout faire afin que le programme Nexus entre en application à partir de janvier 2018. C'est ce que les participants ont recommandé. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Cameroun, il y aura désormais un seul manuel scolaire inscrit au programme pour chaque matière, selon le contenu d'un décret du Premier ministre signé récemment. Éditeurs, enseignants, libraires et responsables d'établissements s'en réjouissent. Pour eux, cette décision va mettre un terme aux nombreux manquements constatés dans la gestion du livre et du manuel didactique au Cameroun, nous dit de Yaoundé notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Jusqu'ici, un élève de la classe de 6e au Cameroun avait dans son cartable 4 livres pour apprendre le français. Des livres qui ne sont pas forcément utilisés dans d'autres établissements scolaires par les élèves du même niveau d'études. De quoi donner le tournis aux enseignants, y compris à ceux du cycle primaire où le même principe était en vigueur. Lucien enseigne dans une école primaire privée à Yaoundé.
En tant qu'enseignant, on avait rencontré divers problèmes. Plusieurs livres étaient destinés pour une seule matière et certains élèves n'avaient pas la possibilité d'entrer en possession de ces livres.
Avec la pluralité des manuels scolaires inscrits au programme, il y avait pire. La corruption des chefs d'établissement par les éditeurs. Marie-Catherine Minkale, directrice groupe scolaire bilingue.
Nous faisons face à plusieurs éditeurs qui nous rendent visite avec des spécimens de livres qu'ils nous proposent pour l'année suivante. Quand ils apportent les livres à vous, dirigeants, ils vous disent, je vous donne votre jus peut-être de 15 000 ou de 10 000 francs pour que vous reteniez.
Désormais, le livre retenu au programme sera utilisé pendant 6 ans au moins sur l'ensemble du territoire national. Une nouvelle orientation qui va éradiquer du secteur de l'édition les brebis galeuses. Vincent de Paul Lélé, responsable littérature et édition chez Édition Clé.
Tel que ça marchait jusqu'à présent, vous verrez des distributeurs qui deviennent éditeurs, attirés certainement par l'appât du gain facile. Parce qu'on a quelques personnes qu'on connaît dans la commission qui, par des subterfuges, vont faire passer des ouvrages à la commission. Vous verrez les imprimeurs devenir éditeur, vous verrez les enseignants qui ont produit des ouvrages qui s'auto-éditent et qui deviennent éditeurs. Vous verrez des inspecteurs pédagogiques qui sont parfois des auteurs et qui deviennent éditeurs. Bref, on se retrouve dans une sorte d'Eldorado où on retrouve tous les chasseurs de primes. Il y aura certainement un tamis qui va s'opérer. On pourrait voir émerger véritablement des gens qui se disent éditeurs.
La gratuité des livres et manuels didactiques pour les écoles primaires publiques dans les zones d'éducation prioritaire a été également inclus dans la nouvelle politique nationale du livre et du manuel scolaire au Cameroun. Professeur Marcelin Vunda et toi, écrivain, enseignant à l'université de Yaoundé 1.
Il y a un souci d'universalisation de l'école qui est réel. Le gouvernement ne dit pas qu'il va offrir nécessairement tous les livres, mais il va garantir la gratuité pour un certain nombre de livres. Et je pense que c'est ce qui se fait dans plusieurs pays. Il n'est pas impossible que ça se fasse et que ça marche dans ce pays afin que des Mozart ne soient plus assassinés parce que leurs parents n'avaient pas assez d'argent pour les envoyer à l'école.
Des innovations majeures qui ne laissent non plus indifférents les élèves du Cameroun, heureux d'être à l'avenir, moins encombrés par des livres jamais utilisés. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Mr. Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.